Mais d'abord, donc, ces symptômes, un peu étranges, honnêtement. Si t'es un médecin, un pédiatre, c'est peut-être pas étrange, mais pour le commun des mortels que nous sommes, ça pop, là, tu sais. On voit ça arriver. Alors, avant d'aller à la pédiatre Caroline Couach, je me tourne vers Manuel Gasse. Il est papa de 5 enfants. Bonjour, Manuel Gasse.
Bonjour, ça va?
Ça va, ça va. Parce que vous avez un garçon de 14 ans et lui, il a vécu cette espèce d'éruption cutanée sur les orteils, là.
Oui, ça a commencé il y a à peu près 2 semaines. C'est ça, des espèces de rougeurs sur les jointures des pieds. On serait porté à penser aux pieds, mains, bouche, tout ça, mais qui est plus à l'intérieur, des paumes, en dessous des pieds. Mais là, c'est vraiment sur le dessus des orteils, là où il y a les jointures, des espèces de taches rosées. Mon fils a commencé à se plaindre en disant que ça faisait de plus en plus mal, ça chauffe, surtout quand il prend sa douche, tout ça. Fait qu'on n'est pas nécessairement de nature à s'inquiéter. On est allé voir le pharmacien avec des photos des orteils de mon fils. Honnêtement, il n'y avait aucune idée c'était quoi. Ensuite, on a appelé notre médecin de famille on a parlé 20 minutes, parlé des symptômes, elle nous posait des questions, elle a vu les photos, puis elle a dit elle savait vraiment pas. Elle a dit, je pense que ça peut être une forme rare d'eczéma qui porte tel nom. Allez voir sur Internet si ça ressemble à ça. Elle nous a prescrit une crème de cortisone, mais sans être très convaincue, mais honnêtement, elle le savait pas. Et c'est drôle parce que c'est mon fils qui, 3 jours plus tard, il reçoit un push sur son téléphone de Apple News, un article qui parle des ce qu'on appelle les orteils COVID.
Oui.
C'est une nouvelle, c'est une nouvelle trouvaille. C'est vraiment, vraiment récent. Des études récentes en Europe qui semblent faire un lien, une corrélation entre ces espèces de taches qui apparaissent sur les orteils et parfois sur les doigts et la COVID-19. Donc, des enfants qui seraient pratiquement asymptomatiques, qui n'ont pas vraiment de fièvre, pas vraiment de tout, mais qui ont ça, qui apparaissent, puis en faisant des tests, se sont rendus compte que dans bien des cas, c'était des enfants qui portaient le virus du COVID. J'ai envoyé l'article à mon médecin de famille,
oui.
qui m'a rappelé l'après-midi, parce qu'elle aussi, c'était nouveau pour elle. Elle a consulté des collègues, tout ça. Elle dit, mon Dieu, écoute, je suis vraiment surprise, ça ressemble vraiment à ça, parce que tous les symptômes, tout ce qu'on décrit, c'est exactement ce que mon fils a. Et c'est ça, pendant la journée, elle a consulté d'autres médecins, des collègues à Sainte-Justine, un dermatologue, et c'est un peu nouveau pour tout le monde, mais tous semblent s'entendre pour dire que, Colin, on voit pas autre chose que ça, tu sais, parce que ça ressemble à rien d'autre, honnêtement.
Fait que là, vous avez dû essayer de le faire tester pour en avoir le cœur net?
Ben, j'ai demandé à mon médecin, est-ce qu'on peut le faire tester? Elle a dit, ben, pas vraiment, parce que selon... Comme vous savez, en ce moment, les tests sont réservés à une certaine clientèle, je crois, au personnel médical, aux gens plus vulnérables, tout ça. Fait qu'elle m'a dit, tu sais, il n'y a pas moyen pour nous en ce moment de savoir à 100% si c'est vraiment ça, même si les spécialistes s'entendent pour dire que ça a vraiment l'air de ça, mais on ne le sait pas à 100%, on le sait peut-être à 95%. Puis on sait pas non plus, il y a aucune étude qui nous dit, bon, est-ce que les adolescents, les enfants, ils ont l'air d'avoir moins de symptômes, est-ce qu'ils peuvent le transmettre? Ici, on est 7 dans la même maison et personne n'est malade, personne n'a d'autres symptômes. On vit 7 dans une maison, puis on est bien collés souvent.
Ben oui. 5 enfants, 2 adultes, ben oui, c'est ça.
Exactement, fait que c'est ça, on n'est pas vraiment inquiet, on nous a juste demandé de... faire comme s'il était porteur. Donc, en ce moment, il est en quarantaine, mais on ne sait pas, est-ce que ça veut dire que nous, ici, il faudrait qu'on le soit. On est un peu dans la brume par rapport à ça, puis le retour à l'école bientôt. Comme je vous dis, on n'est pas de nature à s'inquiéter. On n'est pas vraiment inquiet avec ça, mais on veut juste savoir si on est dangereux pour les autres, s'il faut prendre des mesures particulières. On ne sait pas.
Fait que la prochaine étape, c'est quoi? C'est-tu d'essayer de trouver quelqu'un qui va finalement tester votre garçon? Ou j'essaye de me mettre à votre place, puis moi, je voudrais en avoir le cœur net. Je sais pas trop comment je m'y prendrais, mais je voudrais vraiment avoir le cœur net de ça.
Non, on n'est pas de même, nous. Honnêtement, je comprends. Je comprends que vous soyez comme ça. Nous, on n'est pas inquiets. On se dit que, bon, on le laisse en quarantaine, puis écoute, Il reste dans la maison pendant que ses frères vont faire tourner en rond au parc, en face, en vélo, entre eux autres. continue notre quarantaine.
Je vous trouve cool. Il reste quand même quoi un bon deux semaines avant le retour à l'école. Peut-être que d'ici ce temps-là, les symptômes vont disparaître, puis tout finira bien. Ce que vous devez surveiller, c'est est-ce que les quatre autres vont l'attraper ou un des quatre autres va l'attraper, là, c'est ça?
C'est ça. Moi, la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, ma blonde a partagé ça sur Facebook ce matin, puis moi, j'ai accepté d'en parler ce midi. C'est juste pour mettre la puce à l'oreille à plusieurs parents qui vont peut-être vivre ça, qui vont peut-être voir des choses similaires, des taches. C'est rendu mauve, ça a l'air des petites contusions qu'il y a sur les orteils, puis savoir que c'est peut-être ça. Sachez-le, soyez à l'affût, puis pour l'instant, on est en observation, on attend de voir comment ça va tourner. Je sais que selon l'article, on dit que des fois, après 10 jours, 2 semaines, ça disparaît tout seul, et d'autres fois, ça commence à se transformer en symptômes finalement classiques de la COVID, la toux, la fièvre, tout ça. On espère que ça ne se rendra pas là, mais sachez-le, ayez la puce à l'oreille.
Merci, Manuel Gass.
Ça fait plaisir.
On se tourne maintenant vers Caroline Couache, la docteure Caroline Couache, qui est pédiatre, microbiologiste, infectiologue, épidémiologiste au Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine. Docteur Couache, qu'est-ce que vous en pensez?
M. Gass a tout à fait raison. Là, c'est des manifestations qui avaient d'abord été rapportées par nos collègues en Italie puis en France. Il y a peut-être 3-4 semaines, qui avait alerté les dermatologistes et la communauté pédiatrique ici à dire, écoutez, on a l'impression que c'est une manifestation de la COVID. Et donc, nos dermatologues ici avaient vu des cas aussi, nos urgentologues aussi en ont vu. On les a considérés comme COVID, on en a fait tester quelques-uns. Je vous dirais que la majorité sont négatifs par test nasal et c'est probablement parce que cette manifestation-là est une manifestation plutôt tardive. C'est-à-dire que les enfants font à peu près pas de symptômes à un moment donné au début. Et en retard de ça, 2 semaines, 3 semaines plus tard, les lésions semblent se développer. On ne comprend pas encore exactement le mécanisme là, de développement de ces lésions-là. Mais donc, on considère pour l'instant que c'est une des manifestations cliniques potentielles de la COVID.
Mettons qu'il est infecté à la COVID, rendu à ce stade, d'après les études que vous avez, puis on comprend là, que c'est il n'y a rien de concluant, là, mais mettons, les probabilités voudraient qu'il soit encore contagieux ou pas?
Non. Probabilités voudraient qu'il ne soit plus contagieux. En fait, il y a une petite série qui a été faite, je me rappelle plus dans quel pays, là. Attendez, je vais vous dire ça, où ils rapportaient, eux, que sur les 130 quelques cas, 132 patients qu'ils ont suivis en Italie, quand ils les ont testés, il y avait juste 20% qui étaient encore positifs par PCR. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il reste des petits morceaux de gènes du virus, mais dans la grande majorité des cas, ces patients-là ne sont plus contagieux parce qu'après 8 ou 9 jours, quand on fait des cultures virales là, pour voir si le virus est encore capable de pousser, il ne pousse plus. Donc, quand on est rendu à 2-3 semaines plus tard, même si on retrouve parfois des petits morceaux de virus de façon générale, ça se transmet. Je pense que si les autres enfants n'ont rien eu, ça va.
OK. Alors, il y a ces histoires d'éruptions cutanées, pas juste chez nous, mais ailleurs. Et il y a aussi toutes ces nouvelles à propos de la maladie de Kawasaki qui pourrait avoir un lien avec la COVID-19. D'abord, dites-nous un peu, qu'est-ce que c'est que la maladie de Kawasaki?
Alors, c'est une maladie qui existe depuis toujours. C'est un syndrome inflammatoire qui cause de la fièvre prolongée, des ganglions dans le cou, des yeux rouges, des arthrites, parfois des douleurs abdominales, parfois une éruption cutanée et qui peut entraîner comme complication possible une inflammation des vaisseaux du cœur. Mais ça, c'est rare. Et donc, ce syndrome-là existe depuis toujours. On n'a jamais été capable vraiment de comprendre ce qui en était la cause. On pense que les virus, de façon générale, peuvent déclencher cette réaction immunitaire-là chez des gens qui sont prédisposés. Souvent, c'était des Asiatiques là, qui avaient ces manifestations cliniques-là. C'est pour ça que ça s'appelle Kawasaki, parce qu'ils en avaient vu beaucoup au Japon. Donc là, ce qui est arrivé, c'est qu'en fin de semaine, il y a eu une alerte envoyée par au groupe de pédiatres en Angleterre pour leur dire, écoutez, on a l'impression qu'on en voit davantage. Essayez de voir si ça ne peut pas être associé à la COVID. Et donc, c'est là où on en est. Donc, on a des Kawasaki, comme on a des Kawasaki habituellement. Et là, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est la COVID qui cause ces Kawasaki-là ou c'est autre chose? Nos patients étaient négatifs par PCR.
Et donc, vos patients Kawasaki étaient négatifs? Oui.
Par PCR, oui.
D'accord.
Mais encore une fois, c'est une manifestation tardive, un peu comme les orteils bleus. C'est possible qu'on ne le trouve plus. Donc, il faut aller chercher davantage et essayer de comprendre s'il y a vraiment un lien entre les deux. Puis, il faut se rappeler que la seule raison pour laquelle, présentement, on pense qu'il y a un lien, c'est un lien temporel.
Oui.
C'est-à-dire que ce qui court présentement, c'est la COVID. On a des cas de Kawasaki. On se dit, bon, peut-être que la COVID est effectivement une cause de Kawasaki, mais c'est là où on en est, là. Mais donc, c'est important de le chercher. C'est important de faire des études pour essayer de comprendre si c'est vraiment une des causes du Kawasaki.
Mm-hmm.
Mais c'est là où on cherche.
Bon, là, je vais demander aux parents, Dr Kouach, si ces histoires de rougeur, de taches, ces histoires de Kawasaki pourraient modifier leur décision. De retourner l'enfant ou pas à l'école. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un parent qui s'inquiète a raison de s'inquiéter?
Je pense que comme parent, on est toujours inquiet de ce qui peut arriver à notre enfant. On veut qu'il soit le plus en santé possible. Maintenant, je pense qu'on peut se laisser le temps de voir. Pour l'instant, comme je vous dis, c'est une hypothèse. Ça reste des cas qui sont rares. Là. C'est pas les hôpitaux sont pas pleins de Kawasaki. Au contraire, on en a, mais bon, comme on en a déjà eu. Est-ce que c'est suffisant pour pas les retourner à l'école? Je vous dirais que la question doit être prise aussi dans le contexte où en septembre, c'est la même question qui va se poser.
Oui.
Donc, comment est-ce qu'on fait pour décider quand est-ce qu'on déconfine? Ce que j'ai toujours dit, c'est que c'est sûr que de déconfiner, le dommage collatéral, c'est qu'il va y avoir de la transmission communautaire, puis on le sait. Et c'est pour ça qu'on dit que pour déconfiner, il faut qu'on ait certains éléments a priori. Et ça comprend un dépistage suffisant, ça comprend un bon contrôle de ce qui se passe dans notre communauté. C'est-à-dire que je pense que de déconfiner dans une région où il ne se passe rien, genre à Rimouski, ça va. À Montréal, il faut s'assurer que les foyers sont calmés avant de déconfiner parce qu'on risque d'augmenter la transmission communautaire et ce qu'on veut surtout pas, c'est de se ramasser dans une deuxième vague. Pas parce que c'est grave pour les enfants, mais juste parce que si on recommence à circuler, on pourrait se retrouver en mauvaise posture. Donc, il faut vraiment avoir une bonne compréhension de ce qui se passe dans notre communauté.
Mais Dr Kouach, êtes-vous d'accord avec moi que si on a un enfant qui a ses rougeurs aux pieds,
oui.
Ou encore on a un enfant qui a ces symptômes de la maladie de Kawasaki,
oui.
Il me semble qu'on devrait prévoir qu'il puisse être testé. Vous pensez pas, vous?
On les teste, nous.
Vous les testez à Sainte-Justine?
Oui, oui.
C'est ça. Mais tout à l'heure, vous l'avez entendu comme moi, là, Manuel, lui, son médecin de famille ou sa médecin de famille a dit non, tu fais pas partie des groupes cibles qu'on teste ces temps-ci. Est-ce qu'il devrait, s'il nous écoute, là, Manuel, est-ce qu'il devrait aller à l'hôpital Sainte-Justine puis vous, à ce moment-là, vous passeriez le test pour savoir s'il est COVID positif?
Ben écoutez, si moi les dermatologues qui les voient présentement sont les tests parce qu'ils sont symptomatiques. Puis donc on essaie de comprendre ce qui se passe. Exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Soit dit en passant, je pense qu'il va être négatif là, mais bon, compte tenu de ce qu'on voit dans la littérature, mais nos dermatologues les voient et il y a des pédiatres et des médecins de famille qui les ont référés à la clinique de dermatologie justement pour qu'ils puissent être vus puis évalués par l'équipe qui est en train d'essayer de mieux comprendre le phénomène.
Mais s'il allait à Sainte-Justine, est-ce que vous accepteriez à ce moment-là de passer le test? Je sais juste de comprendre, Dr Kouach.
Ben, moi, je peux pas juste dire viens-t'en, je vais le tester.
Là, non, je parle de l'institution. Je parle de l'institution, là.
Ben, sur notre formulaire de dépistage, effectivement, si nos dermatologues le demandent, ils vont être testés.
Et si son médecin de famille dit, bon, ben OK, d'abord, tu veux en avoir le cœur net, va te faire tester, va-t'en à Sainte-Justine, est-ce que ça va être possible de le tester à ce moment-là?
Il faut qu'il soit vu par un médecin de Sainte-Justine.
C'est ça.
Son
médecin de famille le réfère à Sainte-Justine. À ce moment-là,
en
c'est...
dermatologue?
Oui, mettons.
Tout à fait. Le dermatologue va décider de le tester. Présentement, ce que j'en comprends dans la clinique de dermato, c'est qu'il les teste parce que je pense qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe.
OK. Une dernière question avant de vous laisser aller. Là, il y a cette idée qui circule là, de l'infection volontaire. C'est-à-dire, on se fait un party avec quelqu'un dont on sait qu'il est COVID positif, puis, regarde, on veut en avoir le cœur net, fait qu'on s'infecte pour avoir la paix après, pour avoir l'immunité naturelle. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je pense que le premier élément, c'est de comprendre que cette immunité naturelle-là n'est peut-être pas à long terme et n'est peut-être pas une immunité complète. Ça fait que de prendre le risque d'avoir une complication, sachant qu'on est exposé à quelqu'un qui est malade, donc qui a potentiellement une charge virale élevée et qui est potentiellement très contagieux, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Présentement, je pense qu'il y a trop d'inconnus pour que ça en vaille la peine. C'est pour ça qu'on demande aux gens malades de rester chez eux là, puis qu'on leur demande pas de sortir et de se promener. C'est vraiment pour éviter que la transmission se fasse sans savoir si en bout de ligne, on y gagne ou pas. Là.
Mm-hmm.
Parce que si vraiment les anticorps protègent à vie, puis que les complications n'étaient pas graves, genre la varicelle, puis c'est pour ça que les gens faisaient des varicelles, des parties de varicelle quand les enfants étaient petits, je vous dirais, bon, c'est un risque que vous pouvez prendre. Mais présentement, on ne sait pas exactement là, qui est-ce qui va faire une complication ou pas. Puis on ne sait même pas si une fois qu'ils ont fait l'infection, si on va être protégé pendant longtemps ou pas. Donc cet aspect d'immunité naturelle est encore trop
mystérieuse, trop inconnu.
Trop courte vue parce qu'on n'a pas énormément de recul sur le virus. Donc je pense que éventuellement on verra. Là, l'idée, c'est de développer un vaccin pour avoir une dose contrôlée. Et avec un virus qui est atténué, parce que celui qui est hyper malade, si jamais il arrive quelque chose à quelqu'un qui s'est exposé, on va se sentir très mal là, d'un point de vue éthique.
On s'entend là-dessus. Dr. Caroline Couache, pédiatre, microbiologiste, infectiologue, épidémiologiste à Sainte-Justine. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Après la pause, 790-9850, je m'adresse à vous, les parents. Vous avez entendu l'histoire des rougeurs, des taches. Vous avez entendu l'histoire des symptômes de Kawasaki. Est-ce que ça vous fait douter de la décision que vous avez à prendre de retourner ou pas votre enfant à l'école?